Bonjour et shalom chez vous. Nous sommes aujourd'hui le 12 mai, mardi le 12 mai 2026, et vous écoutez Méditons ensemble avec le révérend Jean-Claude Coffi. Nous atteignons aujourd'hui la 12e partie de notre nouveau thème, ce monde que nous devons haïr. Aujourd'hui, 4 textes de référence en ouverture de notre méditation. Commençons par Genèse 15, verset 18. Au verset 21, il est écrit « En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit « Je te donne ce pays, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Guirgasiens et des Jébusiens. » Jean 8, versets 30 à 36, il est écrit « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Éphésiens chapitre 2, verset 2, il est écrit, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Il est écrit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier, est sous la puissance du malin. » Hier, nous avons entrepris de remonter les marches de l'histoire avec pour objectif de comprendre le sionisme, cible de notre méditation. Malgré le parcours effectué dans les méandres de l'histoire de cette organisation, nous avons dû marquer une pause nécessaire aux alentours du 19e siècle avec la publication du manifeste sioniste « Auto-émancipation » qui appelait les Juifs à quitter l'Europe et à créer leur propre État et la naissance du mouvement « Les Amants de Sion ». Il est bon de savoir que le manifeste sioniste a été l'œuvre d'un médecin d'Odessa, une ville portuaire d'Ukraine, bâtie sur le rivage de la mer Noire. C'est dans cette ville qu'exerçait Léon Pinsker, 1721 à 1891. Il dirigeait l'association « Les Amants de Sion » qui prônait une immigration vers Eretz Israël, qui est terre d'Israël, laquelle terre faisait partie intégrante, à cette époque, de l'Empire ottoman. Pour votre gouverne, sachez que l'Empire ottoman était un sultanat turc basé au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique du Nord et en Europe du Sud, qui a régné de 1299 à 1922. Israël, plus tard, après l'expulsion et la dispersion des Juifs dans les nations du monde, fut envahi par les Turcs ottomans. Ces derniers occupèrent le territoire d'Israël pendant environ 402 ans. C'est à partir de 1922 que la Palestine, comme une série d'autres anciens territoires ottomans, a été placée sous mandat britannique par la Société des Nations, SDN, précurseuse de l'Organisation des Nations Unies, ONU. Fermons cette parenthèse pour revenir à un de ces véritables pionniers du sionisme, le médecin Léon Pinsker, premier dirigeant de l'association Amants de Sion. Le docteur Léon Pinsker estimait que l'aboutissement de ses réflexions devait se conclure par l'établissement d'un peuple juif sur le territoire ancestral de celui-ci, afin de donner un avenir à sa communauté face à l'oppression alentour, car, selon lui, il faut être aveugle pour ne pas voir que les Juifs sont le peuple élu de la haine universelle. C'est mu par ses convictions, que le médecin, comme l'a écrit Pierre Hilar dans son livre « Atlas du mondialisme », Léon Pinsker organisa le premier congrès des palestinophiles. Le résultat ne fut pas à la hauteur de ses attentes, car de nombreux rabbins estimaient que seul le Messie était en mesure de ramener les Juifs en Palestine, tandis que d'autres, comme Asher Ginsberg, considéraient qu'il fallait avant tout une reconnaissance des cœurs d'ordre spirituel, une amélioration intellectuelle et morale du peuple. Cet idéal reçut le nom de sionisme spirituel, mais non religieux. Cet idéal, porté par Theodor Herzl, est soutenu par plusieurs autres, et non des moindres, au fil du temps, conférera à l'idéologie sioniste la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais pour éviter tout amalgame et conformément à la thématique de notre méditation, à savoir le monde que nous devons haïr, il importe qu'il soit relevé le fait que tous les Juifs ne sont pas sionistes et tous les sionistes ne sont pas attachés aux valeurs intrinsèquement bibliques. Faire cette différence est d'autant plus important que la parole de Dieu ne cautionne pas le sionisme en tant que faisant partie des lignes, des branches, des pôles ou des tentacules du système luciférien que la Bible appelle le monde. Cela nous évitera d'accuser les Juifs de maux qui ne leur sont pas du tout imputables et surtout de sombrer dans l'antisémitisme, ce qui est à éviter, en tout cas pour nous, enfants de Dieu. Car ne l'oublions pas, Dieu a pris l'engagement de bénir ou de maudire quiconque bénit ou maudit Israël. Dans Genèse 12, verset 3, la Bible dit « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Genèse 12, verset 3. Je peux vous assurer que si nous ne faisons pas la distinction entre le sionisme en tant que tentacule du système luciférien et les Juifs, nous courons le risque d'être en porte-à-faux avec Dieu. Faire la différence entre le sionisme tel que nous l'étudions en ce moment et le peuple d'Israël est un impératif car, en réalité, et à y voir de près, le sionisme de Herz, de David Wolfson, de Otto Warburg et de Chaim Weizmann, des Rothschild, a des relents antisémites avérés. Voici à ce propos ce qu'écrit Fritz Springmeier dans son livre « Les lignées Illuminati ». Les rapports des Rothschild avec les Juifs sont étonnants. Les médias nous disent que cette famille est pro-juive et elle fait en effet preuve d'une grande charité dans toutes les causes. Mais ce soutien à la race juive a été apporté, dans la plupart des cas, dans l'unique but de diriger et de tirer profit des Juifs. Il a été dit que les Rothschild incarnaient la famille royale des Juifs. Plusieurs Rothschild de premier plan ont reçu le surnom de roi des Juifs. Mais quel genre de judaïsme les Rothschild défendaient-ils ? Sont-ils proches des Juifs orthodoxes qui croient en l'Ancien Testament et attendent l'avènement du Messie ? Non. Sont-ils du côté des Juifs messianiques qui pensent que Jésus-Christ était le Messie venu sauver l'humanité ? Non. Les Rothschild soutiennent ces Juifs qui sont tombés dans les enseignements gnostiques et occultes mensongers de la Kabbale et sont dans les rangs des Illuminati qui maîtrisent le mouvement sioniste. Je crois que les Rothschild sont impliqués dans la Kabbale, dans le judaïsme sabbatéen ou dans le franquisme, toutes ces sectes ayant des liens avec la sorcellerie. Ce pressentiment est renforcé par l'utilisation que font les Rothschild de l'ésotérique sceau de Salomon comme emblème de la famille.